France Inter.
Le grand face-à-face. Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Allez, on démarre comme chaque semaine avec la semaine de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a gagné un peu de répit, échappant de peu jeudi matin à la censure. Les voix du PS ont été décisives. La motion de censure déposée par LFI a donc échoué à 18 voix près. Mathilde Panot s'en est pris à ses alliés du Nouveau Front Populaire.
La direction du Parti Socialiste porte une responsabilité historique dans cette non-censure en laissant Emmanuel Macron poursuivre sa politique de malheur dont plus personne ne veut dans le pays. Ne laissez pas le parti, la direction du Parti Socialiste vous entraîner dans une alliance avec la Macronie. Il existe un pôle de résistance dans ce pays, celui que nous incarnons à cette heure. Nous incarnons à la fois l'alternative au macronisme, mais aussi à l'extrême droite, autour du programme du Nouveau Front Populaire. Plus que jamais, une autre politique est possible. Plus que jamais, un autre monde est possible.
Natacha, est-ce que le PS a trahi son âme, en l'occurrence la gauche, ou a fait preuve d'un sens des responsabilités plutôt rare en s'étant troublé au sein de la classe politique?
Alors, ce qui m'a frappé dans la manière de traiter le sujet cette semaine, c'est surtout de voir les calculs qui ont surgi. Est-ce que ce qui coûte le plus cher, c'est une censure et une dissolution, ou bien est-ce que ce qui coûte le plus cher, c'est un recul, enfin une suspension de la réforme des retraites? Ça a été traduit en argent. Oui. Comme si il était seulement question de milliards. Alors évidemment qu'on parle beaucoup de milliards, des milliards qui manquent, des milliards de la dette, mais on ne peut pas mesurer réellement ce qui est en train de se passer depuis des mois que nous sommes englués dans cette situation. Ça ne se pèse pas en milliards. Le recul de l'éthos démocratique, ça ne se mesure pas en milliards. Et c'est très grave. Derrière, ce qui m'intéresse, c'est aussi cette question du temps politique utile. Parce qu'en fait, c'est ça qui était en jeu. Et là, Sébastien Lecornu, vous l'avez tout à fait introduit de cette manière-là, a gagné du temps. Mais du temps pour quoi faire? C'est toute la question. À quoi nous servent les mois que nous passons? Pendant ce temps-là, je lisais à quel point la filière automobile française est confrontée à un mur absolument tragique, avec 300 000 emplois qui sont à terme menacés, plus 450 000 chez les sous-traitants, la filière textile. On est vraiment dans une urgence, et là, on va avoir enfin un débat à l'Assemblée.
Oui,
ça n'est pas indigne.
Oui. C'est bien. C'est l'éthos démocratique.
Il faut un débat. On espère qu'il sera digne, mais tout en étant pétri par le doute, puisque de toute façon tout cela peut se clore par un passage en force par ordonnance, suivant la manière dont ça va se passer, parce que de toute façon on risque d'avoir des guerres de tranchées sur des amendements, et qu'en fait ce qu'a choisi le Parti Socialiste n'est absolument pas assuré, puisque c'est bien un amendement déposé par le camp présidentiel qui va suspendre la réforme des retraites, sachant que de toute façon tout ça va être remis sur le tapis. Bref, ce à quoi nous allons assister sera certainement très intéressant, riche pour les commentateurs. Mais pour ce qui est de la situation de la France, j'ai un énorme doute.
Je prolonge quand même la question. Le PS a fait une erreur, selon vous?
Disons que le PS a visiblement fait cela pour de mauvaises raisons, et c'est ça qui me dérange. Je ne dis pas qu'il fallait censurer, je dis que les raisons pour lesquelles il l'a fait ne me semblent pas les bonnes.
Gilles.
On vit une situation de crise à la fois politique, institutionnelle, depuis 2024 et même depuis 2022, on l'a analysé, et avec une contribution continue du président de la République à alimenter cette crise, qui fait qu'il y a une cristallisation sur sa personne, dont le risque est de se concentrer sur le président de la République au risque de faire n'importe quoi. Moi, je pense en réalité que à ce stade, il y avait deux questions qui étaient deux questions assez simples qu'il fallait se poser. La première était de savoir si le retour aux urnes était souhaitable. Souhaitable non pas pour les calculs politiques, mais pour l'intérêt du pays. En joignant leurs voix, les gauches et les extrêmes droites avaient la capacité de provoquer ce retour aux urnes en censurant, et de manière non pas automatique, mais de manière plausible, en provoquant la dissolution. La question, c'est est-ce que, en l'espèce, voter apporterait une solution au problème que nous connaissons? En 2024, lorsque Emmanuel Macron a dissous, Moi, j'avais critiqué cette décision comme inconséquente. Mmh. Inconséquente, c'est-à-dire qui ne tenait pas compte des effets, parce qu'on se trouvait placé devant une alternative qui était soit une majorité pour le RN, soit une majorité introuvable. Aujourd'hui, au-delà de la crise immédiate qui aurait été amplifiée, nous sommes exactement dans la même situation, peut-être même en pire. Et donc, derrière cette formule qu'on entend beaucoup, il ne faut pas avoir peur de la démocratie, la question c'est est-ce qu'on accélère une échéance au risque qu'il y ait une incohérence entre l'acte que l'on fait et les effets que l'on attend. Donc, pour moi, le retour aux urnes n'est pas souhaitable.
Et il est toujours inconséquent, si je vous écoute.
En l'occurrence, il est inconséquent. Mais il y a une deuxième question derrière qui est, il ne suffit pas de dire qu'il n'est pas souhaitable, c'est est-ce qu'il est possible de l'éviter ? Est-ce qu'il est possible de l'éviter là, puisque vous avez posé la question pour le Parti Socialiste, c'est compte tenu de la déclaration de politique générale, est-ce que c'est la position qui a été adoptée est juste ? Je trouve que on l'a insuffisamment souligné, mais je crois que Olivier Faure a habilement manœuvré dans cette séquence. Il a lui-même fixé les termes du débat, il a fixé les conditions
conditions, on ne va pas les rappeler, mais il y avait trois conditions.
Et notamment une condition de fond qui est celle des réformes, la suspension complète de la réforme des retraites. Alors, évidemment, on va voir si ça se traduit, mais à ce stade, l'engagement a été pris. Et surtout, enfin, ou au moins aussi, une condition de procédure qui était le renoncement au 49-3, qui fait que, là, il ne s'agit pas de voter le budget, mais il s'agit de pouvoir discuter du budget. Et donc, je pense que, compte tenu de ces deux éléments, que le Parti Socialiste a eu raison de ne pas voter la censure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas censure, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crise. La situation reste éminemment fragile, mais à ce stade, je trouve que c'est cohérent de ne pas l'avoir fait.
Natacha, c'est cohérent et ça aurait été inconséquent de revenir aux urnes ?
Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, même si je vois bien les dangers qu'il y a à revenir aux urnes maintenant, dans un contexte comme celui-ci, et avec le risque qu'il en sorte quelque chose qui ne sera pas meilleur, je crois que l'image qu'a renvoyée l'Assemblée, notamment avec cette idée qu'il y avait une majorité contre la dissolution, me semble le pire message qu'on fasse passer aux citoyens. Et ce qui me dérange aussi, c'est qu'en fait, à aucun moment, il n'y a la possibilité de faire émerger un budget cohérent, une vision cohérente de l'état du pays. En fait, chacun arrache des petites victoires qui sont tout à fait légitimes. Je ne jette pas la pierre, en effet, je suis d'accord avec Gilles, le Parti Socialiste a bien manœuvré. Mais le résultat, en fait, n'a aucune cohérence, ni aucune, ne permet pas de sortir la France, ni même de faire un pas en dehors de l'ornière, et c'est cela qui me dérange. Et nous allons en sortir avec l'impression de la part des citoyens d'avoir une fois de plus une démocratie confisquée, donc le risque c'est un renforcement de ceux qui se positionnent comme des dégagistes, donc je ne vois pas bien ce que nous aurons gagné.
Est-ce que c'est pas inconséquent de ne pas revenir aux urnes, avec comme conséquence de produire les effets qu'on espère ne pas produire en n'allant pas aux urnes. En l'occurrence, la montée aux extrêmes.
Je partage ce que dit Natacha, il n'y aura pas un budget cohérent. C'est s'il y a un budget, ce qui n'est pas acquis, ça sera un budget de compromis avec des victoires et des défaites pour chacun de ceux qui le voteront ou le laisseront passer. La question, c'est dans les conditions de température et de pression actuelles, c'est-à-dire avec la majorité que les Français ont donnée, c'est est-ce qu'il n'est pas, je reviens là-dessus, plus inconséquent de provoquer la dissolution ? Ou alors, si on le fait, je trouve qu'il faut le faire de manière transparente, c'est-à-dire en disant que la meilleure solution, c'est que à l'issue de ces élections, de ces nouvelles élections législatives anticipées après dissolution, que le Rassemblement national gouverne. Moi, je ne m'y résous pas et donc je maintiens ma position.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Donald Trump, faiseur de paix et de guerre. Quelques jours après l'accord entre le Hamas et Israël sur la première phase du plan dit Trump, de retour aux États-Unis, le président américain a annoncé poursuivre sa guerre contre désormais les narcotrafiquants vénézuéliens. C'était mercredi à la Maison-Blanche et on écoute ensuite le président vénézuélien qui lui a répondu, le président Maduro.
On y a quasiment mis fin sur la mer. Maintenant, on va le faire à terre. Pour deux raisons. D'abord, ils ont envoyé leurs criminels chez nous, aux États-Unis. Et puis, il y a la drogue. On a beaucoup de drogue qui arrive du Venezuela.
Non à la guerre. On ne veut pas d'une guerre dans les Caraïbes ou en Amérique du Sud. Non à la guerre. Oui à la paix. Au peuple américain, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Caracas qui s'insurge contre, je les cite, les coups d'État fomentés par la CIA. Gilles, il y a comme un air des années 70-80 qui semble souffler aujourd'hui entre les États-Unis et l'Amérique latine. Est-ce que je me trompe ?
Non, ça peut, enfin, ça y ressemble par certains aspects. Le Venezuela est un pays qui compte. Il compte parce qu'il est potentiellement très riche. Ce sont les premières réserves, on le sait pas, on le sait rarement, les premières réserves de pétrole du monde, les premières réserves prouvées, et parce que il est aussi idéologiquement très symbolique, puisque après des années de dictature, d'accaparement privé de la rente pétrolière, Hugo Chavez a été élu président du Venezuela. Il a engagé ce qu'il a appelé la révolution bolivarienne, avec à la fois une nationalisation des grandes entreprises pétrolières et des programmes sociaux très importants. Il est resté au pouvoir de 1998 jusqu'en 2013. Donc, c'est pas n'importe quel pays, le Venezuela. Aujourd'hui, ce pays, il faut commencer par là, est dans une situation de catastrophe. De catastrophe industrielle, d'abord, et c'est sans doute un des éléments les plus importants, c'est-à-dire que ces réserves pétrolières, qui sont des réserves qui sont difficiles à extraire et difficiles à raffiner, plus les difficultés d'exportation à cause des embargos, en l'espace de 20 ans, le nombre de barils a diminué par 4. Donc c'est absolument spectaculaire, et beaucoup du reste s'ensuit, c'est-à-dire catastrophe sociale, misère, pénurie,
violence,
hyperinflation, violence, violence endémique, catastrophe morale. C'est un pays dans lequel la corruption, y compris la corruption de l'armée, est la plus répandue. 177e pays sur 180 au baromètre de Transparency International. Et enfin, catastrophe politique, dérive dictatoriale. À la dernière présidentielle, les candidats qui ont été arrêtés, qui ont été empêchés, les résultats ont été faussés, et aux élections législatives et locales de mai dernier, l'opposition ne s'est carrément pas présentée. Donc, en 2013, lorsque Nicolas Maduro, que l'on a entendu, a été élu...
Et je fais une note de bas de page, parce que la transparence exige d'expliquer que vous avez, vous-même, travaillé sur cette campagne électorale de 2013, à sa conception, à sa réflexion en tout cas,
absolument,
et à sa mise en scène.
Absolument. Et c'est très intéressant, parce qu'en 2013... Nicolas Maduro était un espoir, c'est-à-dire que il était perçu, y compris par les Américains, y compris par le Quai d'Orsay, comme le Lula vénézuélien,
un réformiste,
la branche pragmatique, civile, syndicale du chavisme. On a très rapidement, pendant la campagne et très rapidement après la campagne, mesuré l'ampleur de la déception. Aujourd'hui, la déception n'est pas une déception, c'est une tragédie. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a une espèce de catastrophe dans la catastrophe avec ce que l'on vient d'entendre. Les pressions militaires qui sont quand même très spectaculaires maintenant. Non seulement les pressions militaires avec la présence de sous-marins à propulsion nucléaire, oui, de navires de guerre, de milliers de marines, mais maintenant pas seulement la pression, les frappes maritimes et menaces d'intervention terrestre, dont... On peut dire, je crois, sans prendre trop de risques, que la dimension démocratique est assez peu présente, qu'il y a derrière deux risques très simples, l'accaparement
des ressources
pétrolières et un gouvernement d'extrême droite, parce que dans la large opposition à Maduro, l'extrême droite est très présente.
Ça fait très années 70, voire un peu avant, changement de régime pour mettre en place un régime plus favorable aux intérêts de Washington. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les événements et ne pas se laisser aveugler par la lutte contre le narcotrafic annoncé par président Trump, Natacha ?
Mais c'est tout à fait ça, et c'est bien ça qui est tragique. D'abord, il y a une espèce d'étrange corrélation, en fait, qui a ressemblé à un carambolage. C'est le prix Nobel de la paix attribué, oui, à Maria Corina Machado. Et en même temps, l'action de Donald Trump, qui, en effet, est totalement dans la ligne non seulement de la doctrine Monroe, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un droit de regard des États-Unis sur tout ce qui se passe sur le continent, mais aussi et surtout de ce qu'ont fait les États-Unis, notamment en 1973 au Chili. Et il est tout de même curieux que les horribles dictateurs que déteste Donald Trump avec autant de véhémence se trouvent toujours dans des pays qui ont d'importantes ressources pétrolières. C'est quand même embêtant. D'ailleurs, pas seulement le pétrole, il y a aussi le gaz, quatrième réserve mondiale de gaz naturel. Donc, c'est ça qui apparaît de façon flagrante au reste du monde. Et une fois de plus, nous allons nous retrouver dans la situation très périlleuse où les États-Unis sont en train de s'asseoir sur le droit international en servant un récit qui est, tout, pour le coup, tout à fait juste. Oui, c'est une tragédie ce qui se passe au Venezuela. Il faut tout de même souligner que Chavez avait, lui, mis en place des programmes qui marchaient. Sa faute totale, c'est celle de tous les pays qui ont une manne pétrolière, c'est qu'il a utilisé la manne pétrolière sans développer une véritable économie, une véritable industrie.
Ce qu'on appelle l'économie de rente.
En revanche, sous Chavez, la population la plus pauvre a vu l'éducation progresser, il y a eu des choses positives. C'est derrière que ça dérape. Donc, pour conclure, ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'on a vu les réactions extrêmement dures de la Chine, par exemple, expliquant à quel point elle s'opposait fermement à toute intervention au Venezuela. Et donc, une fois de plus, c'est l'Occident dans son ensemble qui va apparaître comme fauteur de guerre, fauteur de troubles, avec un double standard. Mmh. Et derrière, les États-Unis s'en sortiront puisqu'ils ont la puissance, l'arrogance, et qu'au fond, je ne pense pas que ça traumatise Donald Trump d'apparaître comme ne respectant pas le droit international. En revanche, les Européens qui sont derrière et qui suivent, là, c'est un véritable problème.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Chez les jeunes, on peut quand même voir qu'il y a aussi l'aide par la cigarette électronique qui est un vrai concurrent. Ils vapotent plus, du coup, ils vont moins vers la cigarette. Donc, c'est vraiment ce qu'on constate maintenant depuis des années. On constate un engouement, en effet, pour la cigarette électronique ou vape, et c'est infiniment moins toxique. Donc, c'est quand même une bonne chose d'aller moins vers le tabac. Donc, je pense qu'on peut se réjouir du fait que les jeunes aillent moins vers le tabac.
Le docteur Marion Adler, responsable du service d'addictologie de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Sur France Inter, c'était jeudi matin, à l'occasion de la publication par Santé publique France de son baromètre sur le tabagisme, à l'aube de la 10e édition du mois sans tabac. Je crois qu'aucun de vous deux ne fume. Mais Gilles, est-ce qu'on doit se contenter de ce que le médecin nous expliquait là? La consommation de tabac baisse, c'est ce que le rapport montre. Et les jeunes vapotent, mais c'est moins grave parce qu'ils vapotent et c'est moins grave que le tabac.
D'abord,
moi, ça m'a un peu choqué.
Écoutez, dans un moment dans lequel les bonnes nouvelles sont quand même se comptent au compte-gouttes, voilà une politique publique, celle contre le tabac, qui est un succès.
Oui.
Un succès dont les chiffres qui ont été publiés montrent à la fois les manifestations et les explications. Dans les manifestations, sans même revenir aux années 60, quand on prend simplement les 25 dernières années, les chiffres sont vraiment, la courbe, c'est rare de voir une courbe comme ça, c'est-à-dire que pendant le nombre de fumeurs quotidiens a stagné entre 2000 et 2015. Et depuis 2015, il y a une baisse quasi continue. On est passé en 2014 de 29% à 18% aujourd'hui. Et c'est vrai, y compris pour les jeunes.
4 millions de personnes ont arrêté de fumer ces 10 dernières années. 4 millions.
À tel point que l'objectif du plan national 2023-2027, qui était une baisse de 20%, a été atteint et même dépassé avant même 2027. C'est rare qu'il y ait des politiques publiques qui marchent à ce point, donc c'est quand même, on peut le souligner. Et il faut essayer d'en comprendre les raisons. C'est rare aussi qu'il y ait des politiques publiques sur lesquelles il y a de la continuité, alors même que 10 ministres de la Santé se sont succédés en 10 ans, et qu'il y a de la cohérence, c'est-à-dire que l'ensemble des leviers ont été utilisés, le prix avec l'augmentation du prix du paquet, le levier réglementaire avec le paquet neutre et les interdictions dans de plus en plus de lieux, et la prévention et l'accompagnement. Et d'ailleurs, le mois sans tabac que vous venez d'évoquer en est une illustration, parce que les chiffres que donnait Santé publique France, les gens qui ne fume pas pendant un mois, pendant le mois sans tabac, la probabilité de réussir à s'arrêter de fumer augmente de 500%, de 5 fois par rapport à la période précédente. Donc, je trouve qu'on a raison de se réjouir. Après, avec les limites dont on n'aura pas peut-être pas l'occasion de revenir
quand même. Pour le plaisir.
Je dis deux phrases. Ouais. Première phrase, c'est la première limite, c'est on ne mesure pas à quel point nous partons de loin.
Okay.
La France est un pays où on fume beaucoup et on continue de fumer plus qu'ailleurs. Et deuxième limite, c'est une limite sociale. Les plus pauvres, avec le prix du tabac qui augmente, mais qui continuent à fumer beaucoup plus, et les jeunes, c'est là où vient la question du vapotage. Le vapotage, l'e-cigarette, c'est un, je pense, un atout pour aider les gens qui fument à s'arrêter
c'était
de fumer.
C'était prévu pour ça, hein. En tout cas, on le vendait comme ça.
C'est le cas, mais c'est un risque d'addiction, et de début d'addiction pour les jeunes.
Il n'y a qu'à passer devant les collèges et les lycées pour s'en rendre compte.
Oui,
Natacha.
Et c'est une aberration écologique totale.
En plus.
Je reviens sur, disons, ce qui me chiffonne un peu dans cette étude. Gilles a esquissé la question sociale. Deux fois plus d'ouvriers fumeurs que de cadres. Trois fois plus chez les personnes en difficulté financière. Ça nous raconte quoi? Oui, c'est une politique publique qui marche parce qu'elle est fondée sur l'hygiène, parce qu'elle prend plusieurs facteurs. Mais la question est celle maintenant des causes. Les causes qui poussent les uns et les autres à fumer. Nous sommes le pays d'Europe qui consomme le plus d'antidépresseurs et qui consomme le plus de cannabis. Il me semble que diminuer la consommation de tabac pour continuer, en fait, à trouver d'autres dérivatifs à la fragilité, aux problèmes de santé mentale, à la dépression et à la misère sociale, c'est pas la meilleure manière. Donc oui, nous avons géré les conséquences. Si maintenant on s'intéressait aux causes, là, ça deviendrait vraiment intéressant.
Quasiment impossible de faire une transition. Place au débat du grand face-à-face.
Le grand face-à-face, le débat.
Tiens, vous qui êtes prof de lettres, Natacha, comment on dit quand je ne suis pas capable de faire une transition? Ce qui est une transition, ça s'appelle comment en français, ça?
Une prétérition. Je ne ferai pas de transition.
Merci. Bonjour François Dubé.
Bonjour.
Et bonjour Valentin Husson.
Bonjour Thomas.
Bonjour à tous les deux. François Dubé, vous êtes sociologue, grand spécialiste de l'école et des inégalités scolaires. Vous avez longtemps enseigné à l'Université de Bordeaux 2 et avez été directeur de recherche à l'EHESS. Vous signez ce livre, Le mépris, émotion collective, passion politique, aux éditions du Seuil, et on a eu très envie de vous faire dialoguer avec un philosophe, Valentin Husson, que je salue à nouveau, professeur chargé de cours à l'Université de Strasbourg. Vous signez-vous un livre au titre fantastique, Foule ressentimentale, aux éditions Philo Mag. Merci à tous les deux d'être là. Le mépris, le ressentiment, deux émotions, deux passions tristes, je ne sais pas si vous acceptez la définition, deux passions tristes qui racontent beaucoup notre temps et qui, bien utilisées, peuvent être des armes de destruction massive de nos démocraties, de notre vivre ensemble. Partons de ce mot « mépris » qui s'est imposé dans notre discours politique et médiatique avec un grand succès. Exemple, pour protester contre les ZFE, et selon lui, l'interdiction faite aux moins favorisés d'accéder au centre-ville, l'écrivain Alexandre Jardin a lancé au début de l'année 2025 un grand mouvement de défense des gueux, et il n'a que ce mot mépris à la bouche.
Ce mot qui exprime le sentiment de mépris, c'est comme les gilets jaunes. Personne n'a décidé un jour que les gens mettraient des gilets jaunes. C'est collectivement. Eh bien ce mot, il a cristallisé notre sentiment de mépris et notre désir d'action, cause après cause. Voilà. C'est pour ça qu'il est puissant. Il vient de nous tous. C'est un sentiment collectif. C'est juste pas possible de mépriser la France qui n'arrive pas à s'exprimer.
C'est très intéressant ce que dit ici Alexandre Jardin. Vous, le sous-titre de votre livre, c'est « Émotion collective ». Il y a le mot « collectif » qui apparaît dans la bouche d'Alexandre Jardin. Comment est-ce que vous entendez, vous, cet extrait? Qu'y a-t-il comme ingrédient dans ce qu'on vient d'entendre de la recette du mépris et tout de même aussi de son usage politique qu'on peut en faire?
J'ai l'impression que le mépris que j'ai connu il y a très longtemps était une sorte d'accompagnement de l'ordre social. Le mépris des travailleurs, des femmes, c'était le système. Ce qui fait que les gens dominés se sentaient méprisés mais résistaient. C'était une rue. Il y a des livres célèbres de sociologues anglais qui racontent « nous et eux ». Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que tout ça explose. Et on est dans cette espèce de rhétorique du sentiment, de l'émotion. Alors, telle mesure, c'est du mépris. Tel regard, c'est du mépris. On me voit, on me méprise. On ne me voit pas, on me méprise aussi. Il y a une sorte de ronde du mépris, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mépris. Mais ce qui était une... La dimension symbolique au fond des inégalités est devenue une expérience personnelle multiforme. Et quand je m'amusais à écrire ce livre, qui accompagnait un autre qui s'appelait Le Temps des Passions Tristes, justement.
Oui, il y a quelques années, ouais.
Je testais autour de moi, disons, est-ce que tu te sens méprisé? Tout le monde me répondait, ouais, bien sûr. Je suis méprisé en tant que, parce que j'habite à cet endroit, parce que j'ai ce diplôme, parce que j'ai ces origines, parce que j'ai cet âge, parce que j'ai cette sexualité. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, et qui n'est pas anecdotique, c'est que cette émotion est devenue une force collective tout à fait incroyable. Et alors, j'ai pas écrit un livre sur les États-Unis, mais évidemment, je n'ai pensé qu'à Trump. C'est-à-dire quelqu'un qui dit aux classes moyennes et populaires blanches, vous êtes méprisés. Vous êtes méprisé par le reste du monde, vous êtes méprisé par les élites, vous êtes méprisé par les plus pauvres que vous, vous êtes méprisé par ceux que vous stigmatisez, et vous êtes dans cette espèce de mécanisme qui est le contraire de celui qu'on avait connu, où vous aviez des conflits, des intérêts, ça finissait par se négocier. Alors, tout à l'heure, il y a eu un débat sur qu'est-ce qu'il faut faire, mais on est dans la rationalité. Avec Alexandre Jardin, je crois qu'on est dans autre chose.
Valentin Husson, ce qui est intéressant, c'est la traduction ensuite, et c'est chez vous que ça se passe, la traduction du mépris en chacun de nous, c'est ce que vous appelez, ce qu'on appelle le ressentiment.
Le ressentiment, oui. Nietzsche disait que le ressentiment, c'était une haine rentrée. C'est une aigreur, en fait, et la question est de savoir quelles sont les causes de cette aigreur.
Oui.
Je pense qu'il y a deux raisons qu'on peut avancer. La première, c'est l'absence de reconnaissance. En tous les cas, on a le sentiment qu'on n'est plus reconnu dans la société. La démocratie, en définitive, nous avons du quoi ? La réussite sociale, la méritocratie, comme on le disait en République, elle nous a dit aussi que on pouvait, comment dirais-je, avoir le pouvoir, ça s'appelle le vote, et en définitive, on se rend compte que peut-être que la souveraineté du peuple est un petit peu émoussée, que la reconnaissance que l'on voulait n'a plus vraiment lieu, et que la réussite qu'on nous a vendue n'a pas été au rendez-vous. Ça fait monter une certaine colère, et ça fait monter également une défiance. Une défiance à l'égard des pouvoirs en place qui est captée, cette défiance-là, par les populistes.
On va y arriver, mais le ressentiment, il est donc, à vous écouter, absolument légitime.
On peut le comprendre, on peut en tous les cas comprendre que eu égard à la reconnaissance que l'on peut attendre d'une société et le sentiment de mépris pour y revenir que l'on peut avoir, on peut comprendre en effet qu'il y ait un sentiment de déclassement qui fait qu'une colère naît, une aigreur, et qu'elle se manifeste, par exemple, dans un dispositif technique qui s'appelle le web et les réseaux sociaux.
On va y venir, bien sûr, à l'outil qui bouleverse tout de même la manière de communiquer ce ressentiment à l'ensemble du collectif. François Dubé, après je donne la parole à Gilles et Natacha, mais comment est-ce que vous entendez ce que dit Valentin Husson, avec l'idée que, finalement, ce mépris, il est aussi nourri peut-être par une trahison des principes démocratiques et de la République, et pas uniquement par une victimisation et un individualisme forcené de chacun.
Bien sûr, les inégalités existent, les injustices existent. La question qui se pose, c'est pourquoi, aujourd'hui, elles engendrent massivement ce sentiment de mépris.
Alors pourquoi ?
Je ne dis pas qu'elles n'existent pas. Alors, je crois qu'il y a plusieurs causes. J'en évoquais une qui était la décomposition des collectifs, qui est quand même, qui étaient des machines à résister au mépris. Nous et eux, c'est pas le même monde.
C'est-à-dire, ça marchait comment avant, ça?
Ça marchait que le mépris du bourgeois à l'égard de l'ouvrier se heurtait aux ouvriers qui disaient c'est des snobs, c'est des prétentieux, c'est pas nous. Moi, j'ai été élevé dans une société où 15% des gens faisaient des études et les autres n'étudiaient pas.
Ouais.
Ceux qui étudiaient devaient mépriser, j'en faisais partie, ceux qui n'étudiaient pas. Ceux qui n'étudiaient pas s'en foutaient. Aujourd'hui, 55% étudient et tout le monde se sent méprisé par la filière dans laquelle il n'est pas, qui est juste au-dessus de la sienne. Et donc, le système est plus juste qu'il n'était et il est vécu comme beaucoup plus brutal. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que si l'égalité des chances est un principe incontestable, moi, je tiens à rappeler que c'est un principe darwinien. Parce que si les vainqueurs méritent leur victoire, les vaincus méritent la leur. Et il y a quand même un phénomène, ça m'étonne d'ailleurs que la gauche française n'en parle quasiment jamais. En 1980, c'est très longtemps. Le vote de gauche, c'est des travailleurs non diplômés alliés aux instituteurs. Pour dire les choses très grossièrement. Aujourd'hui, le vote de gauche, c'est les gens qui ont réussi leurs études, Ceux qui ont réussi leurs études et qui ont moins de boulot votent France Insoumise, mais grosso modo, c'est ça. Et ceux qui n'ont plus de diplôme sont dans le ressentiment, la haine des élites, des sachants, et votent à l'extrême droite ou ne votent plus.
C'est un peu ce que dit Valentin Husson quand il dit le mot méritocratie.
C'est exactement ça. Alors, on est un peu coincé parce qu'il faut à la fois adhérer à ce modèle de justice qui est incontestable. Et en même temps, ce sont des modèles de justice dont la mise en œuvre se retourne contre nous. Et je pourrais prendre bien d'autres exemples, comme les chutes symboliques. Je veux dire, quand les institutions tombent, c'est du Max Weber, quand le monde se désenchante, l'instit qui était pauvre mais respecté, il est pauvre.
N'est plus que pauvre. Voilà. Ouais, et pas respecté. Gilles.
Donc, il est respecté, mais il ne se sent pas respecté.
Bien sûr.
Alors, je voudrais essayer de qu'on aille au bout, de purger un point autour duquel vous avez l'un et l'autre tourné. C'est qu'est-ce qui relève de la réalité, qu'est-ce qui relève de la perception ou des sentiments. Et je me suis posé cette question en vous écoutant, mais je me l'étais déjà posée en vous lisant dès le premier paragraphe de votre livre, François Dubé. Vous dites « Le mépris ou ce qu'on perçoit comme tel est partout » et un peu plus loin dans le vôtre, Valentin Husson, vous dites « Mais le problème, c'est que personne n'a attaqué le troll, il s'est senti attaqué. » Alors, qu'est-ce qui relève de la réalité? Qu'est-ce qui relève de la perception?
Et quand même, au passage, dites-nous ce qu'est un troll.
Oui.
Et quelle est sa place
définissons les
termes. Oui, on a besoin quand même.
Alors, un troll, ça peut être un individu, un collectif. On parlera peut-être des usines à trolls de Trump ou de Poutine. Oui. Ou simplement des messages soutenus par des algorithmes qui visent à créer de la polémique, qui visent à créer de la dispute, qui visent à créer de la haine. Sur la question du sentiment, en effet, je m'y suis intéressé parce que aujourd'hui, il y a une sorte de toute-puissance du sentiment. C'est-à-dire que la liberté d'expression est devenue une liberté d'impression. On a l'impression que, et en définitive, parce qu'on a cette impression et ce sentiment, on se sent autorisé à le dire. C'est ce que je dis, alors c'est peut-être un bon mot lacanien, mais je dis que, comment dirais-je...
Il y en a beaucoup dans votre
livre. On se refait pas. Mais on croit une toute-puissance du sentiment et on oublie parfois que le senti ment aussi. Qu'il y a peut-être un mensonge de ce qu'on ressent, et que ce que l'on ressent comme étant le réel, peut-être qu'il est en décalage avec le réel, et c'est ce décalage-là qui peut-être crée du ressentiment aussi. C'est peut-être une sorte de... Oui, ce décalage-là par rapport au réel.
François Dubé.
Moi, comme sociologue, je crois que les sentiments, les émotions, les représentations, c'est la réalité. Je veux dire, je ne crois pas à l'existence de Dieu. Mais dès lors que d'autres y croient, il y a des cathédrales, il y a des curés, il y a des guerres de religion, qui sont vraies. Je crois que le mépris est moins fort aujourd'hui qu'il ne l'était du temps de ma jeunesse, où il faisait partie de l'ordre des choses, mais il est vécu d'une manière si brutale, si violente, si personnelle, qu'il devient une force, et je crois d'ailleurs qu'on aurait tort de le prendre à la légère en disant aux gens « vous avez tort ».
Oui.
Vous avez tort, vous pensez que la France est un pays qui se décompose, envahi, qui n'est plus une grande puissance, etc. Vous avez tort. Eh bien, je crois que quand on leur dit « vous avez tort », on renforce leur sentiment de mépris parce qu'ils partent de leur expérience.
Mais donc, ça veut dire que vous, le scientifique, vous avez abandonné l'idée d'argument rationnel ?
Non. Je pense qu'il y a une capacité de décrire rationnellement le monde, bien évidemment. Statistiques.
Voilà.
Mais moi qui ai beaucoup travaillé sur les inégalités, je peux vous dire qu'entre les statistiques que l'on mesure, que l'on prend, et la manière dont les inégalités sont perçues, il y a un monde. Il y a un monde, et le monde qui compte, surtout quand l'air du temps n'est pas bon, c'est quand même celui de la façon dont le monde est vécu. Je vais prendre un exemple extrêmement simple. Il y a un sentiment d'insécurité. Bon. Les statistiques montrent que c'est pas aussi net que ça. Eh bien, quand vous dites aux gens, votre sentiment d'insécurité ne repose sur rien parce que les statistiques montrent que vous avez faux. Et d'ailleurs, moi, j'habite dans un quartier où il n'y a pas d'insécurité.
Oui.
En général, je préfère vous dire que vous fabriquez du mépris, du ressentiment. Et c'est ça qui me trouble. On pourrait multiplier les exemples. Oui. Multiplier les exemples. J'en prends un tout bête, encore sur l'égalité des chances. L'égalité des chances, statistiquement, c'est pas vrai. Bon. Mais dès que je suis dans une classe, il se peut souvent que le meilleur élève soit l'élève le moins favorisé. Donc l'égalité des chances, si je suis prof, je suis obligé d'y croire. Parce que si je n'y crois pas, je ne fais plus classe.
Ben oui, c'est une fiction nécessaire, la méritocratie. Ouais.
Voilà. Mais d'ailleurs, comme l'avait dit un bon sociologue.
Oui, vous avez une phrase. Oui, et vous avez une phrase d'ailleurs dans le livre. C'est une parenthèse, mais vous avez une phrase là-dessus. Le problème, c'est quand le monopole de la reconnaissance du mérite passe par une seule institution, que ce soit l'école ou les marchés. Mais ma question, c'est plutôt sur le. Vous évoquiez Donald Trump tout à l'heure, et j'ai l'impression qu'en fait, la première élection de Donald Trump en 2016 répond exactement à ce que vous décrivez, François Dubet, c'est-à-dire toutes ces classes populaires et ces classes moyennes qui sont, du fait de la désindustrialisation, du fait de la fragmentation des sociétés occidentales, qui sont dans cette impression de dépossession, de perte de leur souveraineté, de leur capacité de décision. Alors que la deuxième élection de Donald Trump relève des mécaniques que vous décrivez, Valentin Husson, à savoir la dégradation de tout cela du fait de la mécanique des réseaux sociaux et d'Internet. Et vous expliquez à un moment quelque chose que j'ai trouvé absolument passionnant. Vous dites, il y a une disparition du surmoi. Et vous écrivez, le refoulé est ce qui en moi est plus fort que moi, le numérique comme culture de données, et en cela il est un haut fait de la culture, il recueille les datas, les relie, etc., forme désormais notre corps de données inconscient. J'aimerais que vous reveniez là-dessus, sur ce changement, et que vous nous disiez tous les deux comment vous voyez cette évolution et ce rôle des réseaux sociaux.
Valentin Husson. On pourrait le dire d'une manière très simple, la démocratie s'est muée en datacratie. C'est un terme qui est d'ailleurs employé, hein. C'est un néologisme qu'on utilise désormais très, très couramment. La datacratie, c'est quoi? C'est le pouvoir par les données, par les algorithmes. On est sur Internet, on va liker une publication, on va scroller, on va passer du temps sur tel ou tel contenu, et puis ces données vont être récoltées, et elles vont être utilisées pour, comment dirais-je, faire du biais de validation, pour influencer notre opinion. Et en effet, Trump, ça a déjà été un petit peu le cas lors de sa première élection,
mais massivement.
Lors de sa deuxième, il a en effet eu recours à la récolte de données pour influencer les indécis. Je donne un exemple très simple. Vous êtes un électeur américain. Alors, on imagine une classe moyenne, blanche, qui se croit déclassée, etc., ou qui est véritablement déclassée. Vous êtes sur vos réseaux sociaux et vous likez des contenus dont votre profilage psychologique fait que vous apparaissez comme quelqu'un d'angoissé, stressé, anxieux à l'égard de l'avenir, etc. Les algorithmes sont réglés, et le trolling de masse désormais est réglé pour récolter vos données et faire en sorte de vous poster du contenu sur vos réseaux, par exemple sur l'immigration de masse, et qui va faire que Trump, représentant un courant anti-immigration, va faire basculer votre indécision du côté d'un vote en soutien à Trump. Donc, je le disais, la démocratie s'est muée en datacratie, et en effet, alors pour revenir sur la question du surmoi, c'est pleinement le propos du livre, c'est-à-dire que le surmoi pour Freud, c'est nos tabous, nos censures, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression que le surmoi a un petit peu éclaté, qu'il a un petit peu disparu, et que les civilisations n'arrivent plus à refouler, en raison même peut-être de cette manipulation inconsciente des données. Et je crois que ces foules ressentimentales-là dont je parle dans le livre, ce sont précisément des foules qui se défoule parce qu'elle ne refoule plus, quoi. Le surmoi n'existe plus, la morale, les censures et les tabous. Écoutez, ce qu'on voit souvent, ce qu'on entend à la télévision, à la radio, sur les réseaux, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Or, je le dis dans le bouquin, si on le pense tout bas, c'est qu'il y a une raison.
C'est le surmoi.
Voilà, c'est le surmoi.
Ouais. C'est le ça.
Voilà. C'est le ça. On est vraiment là. Bienvenue à un psychanalyste. François Dubet, vous vouliez préciser quelque chose?
Non, moi, je n'y connais rien, mais je suis très sensible à ça. Je suis sûr que l'explosion de ces émotions repose sur ces technologies. Mais il y a un changement, quand même, qui me frappe. C'est que, quand on regarde l'histoire des mouvements sociaux, il y a toujours eu des colères, des colères folles. Mais il y a toujours eu des machines à les refroidir, qu'on appelait des mouvements sociaux, des associations, des curés, des instits, des militants, des salles municipales, des imprimeurs pour tirer des tracts. Ce qui m'a sidéré, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de ça. Donc, d'une certaine manière, c'est une autre façon de dire la même chose, mon expérience personnelle devient immédiatement une expérience publique.
Et politique.
Et politique. Et si vous la désapprouvez, vous m'insultez, vous ne me reconnaissez pas. Alors que des gens de mon âge ont vécu dans un monde où il y avait une foule de médiations aberrantes, idéologiques, pénibles, censurantes et tout. Mais au moins, ça refroidissait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais parler d'une expérience personnelle. C'est que pendant la première élection de Trump, premier mandat de Trump, j'avais lu le bouquin de Vance, Illy Boy Elegy.
Ouais.
Et j'avais été, j'avais été enthousiasmé.
Comme beaucoup de gens.
Et j'ai failli faire une critique très positive de ce livre que je n'ai pas faite et je m'en félicite parce que ça prouve que je n'ai rien compris.
Racontez-moi.
Ben, c'est-à-dire que j'ai pris ce livre sur le ressentiment, la frustration, l'amertume.
On raconte pour que c'est sa biographie, son autobiographie.
Oui, d'accord. Ouais.
J'ai pris ça. J'explique.
Voilà, mais j'ai pris ça pour un livre de gauche.
Oui, beaucoup l'ont fait.
Et c'est un facho. Et je trouve que c'est quand même un peu troublant que l'on puisse être dans cet état d'incertitude et de basculement de ce qu'on a pris pour des frustrations de gauche et qui sont en réalité du ressentiment fascisant.
Alors, fascisant, ce sont vos mots, mais c'est vrai que quand le livre est sorti, beaucoup de gens ont expliqué que c'était la manière de comprendre l'électorat de Trump que de lire ce livre, qui a eu un grand succès et qui a d'ailleurs propulsé la carrière politique de J.D. Vance. Gilles.
Moi, je voudrais savoir comment ce que vous décrivez l'un et l'autre vient bousculer nos démocraties. Parce que
oui.
Je suis frappé de voir que, Valentin Husson, vous écrivez « Le troll ». Joue un rôle prépondérant, hein. Je vous cite dans ce retour des fascismes, et vous, François Dubet, que le mépris, c'est le carburant des tyrans. Donc, votre objet d'étude, qui est pas, on voit les emboîtements, mais qui sont deux objets différents, vous dites l'un et l'autre que ça participe du bousculement de nos démocraties. Je voudrais savoir comment.
En quoi?
En quoi?
Valentin Husson, peut-être d'abord?
Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le troll, c'est pas simplement le bout en train et le comique qui fait qui commente une publication pour dénoncer la vanité du monde, etc. C'est aussi désormais des collectifs ou des usines ou des armées. Vous prenez le cas par exemple de la Russie, ils ont une agence spécialisée qui vise à la diffusion de fausses informations qui vise à déstabiliser les souverainetés. Ça a été le cas pendant le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que les trolls russes, l'usine à trolls russes, est intervenue sur les réseaux sociaux, notamment Facebook en France, pour diffuser des fausses informations sur le gouvernement français et déstabiliser de l'intérieur le gouvernement français. Les Russes sont intervenus aussi aux États-Unis. C'est-à-dire que le troll est aujourd'hui pas simplement le symptôme individuel d'un ressentiment, c'est le symptôme collectif d'une prise en otage de la démocratie et peut-être pire encore d'un dévoiement de la démocratie. C'est en définitive les armées de trolls qui régissent désormais le monde. Les armées militaires, elles existent encore, mais peut-être qu'à l'avenir, les questions géopolitiques, les questions démocratiques se joueront avec ces armées de trolls et ces algorithmes.
François Dubé, je vous donne la parole, mais vous avez commencé à dire c'est pas que rigolo, parce qu'il y a des dimensions comiques. Quelle est la fonction du rire là-dedans?
Ah ben le troll comique, c'est assez intéressant, je le dis dans le livre, le mot drôle en français vient du mot troll. La dimension comique est très sympathique du troll, c'est celle qui au fond... Mais j'y vois quasiment la dimension du théâtre classique, quoi, le rire qui vient corriger les mœurs.
Qui transgresse.
C'est la transgression, on dénonce la vanité du monde, tout n'est que vanité et vanité. Bon, alors cette dimension-là du rire, on la connaît, c'est celle du théâtre, et ce personnage théâtral qu'on voit sur les réseaux, il est tout à fait sympathique, il est nécessaire et qu'il continue à faire ainsi.
François Dubé, sur la question que posait Gilles, du carburant au tyran, et la question que j'ajoute après, c'est peut-on résister à cette vague?
Mais j'espère qu'on pourra résister à cette vague, mais pour le moment, on est d'ailleurs, je pense qu'on est dans une situation qui a été celle d'une grande partie de l'Europe dans les années 1880, c'est-à-dire l'ancien système composant les monarchistes aux républicains s'effondre, il n'y a pas encore la droite et la gauche, et il y a un trou désagréable. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est dans cet
arbre. Dans ce trou.
Partout, on voit les vieilles choses social-démocrates s'épuiser, les partis de droite libéraux s'épuiser, et c'est quand même de l'autre côté que ça gagne. Donc c'est un moment un peu désagréable. Ce qui me semble aujourd'hui poser un problème, si vous voulez, c'est que si j'en reste au mépris, alors il ne faut pas faire jouer au mépris le rôle de Deus Ex Machina, enfin c'est pas l'explication de ce qui nous arrive, mais c'est la manifestation, c'est que le mépris, on ne se libère du mépris que par des ennemis et par des mépris supplémentaires. C'est ça.
Ça, c'est inquiétant.
Moi, ce que j'aimais bien dans la lutte des classes, c'est que le patron est un adversaire, mais ça a du sens tant qu'on existe tous les deux et qu'on négocie. et qu'on s'affronte et qu'on négocie. Tandis que là, on est dans autre chose. On est dans une logique de désignation d'ennemis, de bouc émissaire. Quand même, quand on vous dit « virons les immigrés, la France aura plus de problèmes », c'est pas sérieux. Quand on vous dit « faisons payer les 1 pour 1000 des plus riches et il y aura plus de problèmes », c'est pas sérieux. Et on fait semblant d'y croire. Et ça, ça me paraît très dangereux parce que moi, j'ai une conception un peu tiède de la démocratie. C'est quand même des débats pénibles comme ceux qu'il y a eu, que vous avez eu tout à l'heure. Il faut quand même arriver. Il faut
quand même. Non, mais... Vive la tiédeur.
Non, mais le monde existe. Le monde existe dans sa dureté, sa réalité. Et dans ce monde des passions, dans ses colères, dans ses frustrations, le monde disparaît. Le monde disparaît purement et simplement. Et ce qui me gêne, c'est que, pour ça d'ailleurs, je crois que le populisme est un style politique, mais pas un programme. Ouais. C'est que dès que le populisme arrive au pouvoir, le style devient un programme et ça devient autre chose que le style. Je veux dire, on était
des
Pépé Griot, on est à... Voilà. Et le monde réel, ça peut virer à droite, à gauche, n'importe comment. Voilà. Mais c'est pour ça quand même... Il me semble qu'on a de bonnes raisons d'être un peu inquiet et je dirais, on devrait se poser la question, comment y répondre? Et la manière dont on y répond, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi me terrifie. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que les réponses qu'on apporte aux passions tristes sont des réponses qui le renforcent méthodiquement, qui le confirment méthodiquement. Je trouve ça extrêmement dangereux.
Oui, si vous nous dites que la réponse au mépris, c'est le mépris supérieur, en effet, c'est un petit cercle vicieux qui nous enfonce dans ce trou que vous avez défini avec nous.
Je voudrais revenir à la dimension individuelle des trolls. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que vous montrez, Valentin Husson, dans votre livre, à quel point on est tout à fait dans cette mécanique du regard, et vous y ajoutez même une réflexion sur la mécanique libidinale, c'est-à-dire la frustration terrible et le besoin d'amour qui se manifeste à travers la haine. Et je vous entendais tout à l'heure, tous les deux, évoquer la question de la désindustrialisation, la perte de souveraineté, et me revenait la phrase fondamentale de la Déclaration des droits de l'homme. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. La question, c'est celle de l'utilité sociale des individus qui disparaît, ce qui crée cette espèce de sentiment de n'être pas regardé. Et donc, ma question, c'est comment lutter contre une société qui détruit petit à petit cela ? Mon intuition est que ça n'est aussi de la transformation de l'individu en consommateur pur, et que c'est dans, au contraire, l'action et la création qu'on sort de la haine de l'autre et de cette mécanique que vous décrivez.
Valentin Husson qui acquiesce.
Oui. on parle aujourd'hui de l'économie de l'attention,
oui,
de la captation de l'attention. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, les algorithmes sont faits pour capter, à partir de nos données, notre attention, par nos goûts, par ce qui a été profilé de notre profil, etc. Ça cherche à nous vendre des babioles selon nos goûts. L'économie de la captation, c'est l'économie capitaliste, telle qu'elle se fait désormais par les algorithmes. Et je crois, j'ajouterais en miroir de ça, que ça crée aussi de l'économie de l'attention du consommateur qui se sent passif et qui veut redevenir actif et qui, sur les réseaux sociaux, devient un troll pour attirer l'attention. On lui a capté son attention, c'est un consommateur désormais passif et il va sur les réseaux pour créer de l'attention. Il se sent méprisé. On en revient à la question. Et en définitive, il va chercher dans cette dépréciation de soi-même, où il n'est plus rien dans cette société. Je l'ai dit tout à l'heure, on lui a enlevé sa réussite sociale, on l'a dépossédé de son pouvoir politique, et il va chercher de l'attention. Il se déteste et il déteste les autres en réponse. C'est pas aime ton prochain comme toi-même, c'est aie ton prochain comme toi-même. C'est une haine de soi qui se transforme en haine des autres.
Ouais. Je croyais que vous alliez faire économie de l'attention, économie de la tension. Ça vous va aussi, vous prenez?
L'un et l'autre, dans votre conclusion, vous dites quand même, il faut essayer d'ouvrir des pistes à la question que faire. Et j'ai été frappé de ce que l'un et l'autre, vous possédez un retournement. Vous dites, vous, Valentin Husson, la conclusion, c'est qu'il faut troller les trolls. Et François Dubet, il faut que le mépris prenne une forme démocratique et politique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ce retournement, pour l'un et pour l'autre ?
François Dubé, d'abord. Comment le mépris peut devenir politique, ou en tout cas utilisé politiquement ?
Je crois que donc, quand on écrit un livre, il faut faire des propositions optimistes, c'est un impératif moral. Donc, voilà. Mais en fait,
ben voilà qui nous aide.
Non, mais je suis un peu sérieux. C'est-à-dire, on a quand même le sentiment aujourd'hui d'être devant une grande difficulté intellectuelle, pas simplement politique. Moi, je crois qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que je crois qu'il faut ne plus voir le monde uniquement en termes de discrimination. Les discriminations, c'est-à-dire ce qui m'empêche de bénéficier de l'égalité d'accès à. Je suis pas hostile à ce qu'on pense un peu toujours en termes d'égalité de conditions. Alors ça peut paraître un peu abstrait, mais ça fait un peu vieille gauche. Mais je pense que la réduction des inégalités de conditions, ça a quand même des vertus. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée que chacun est un héros, que ce héros doit réussir et qu'il doit être reconnu. Et le problème de la reconnaissance, je suis un grand lecteur de la philosophie de la reconnaissance, c'est que c'est quand même très compliqué de reconnaître, parce que la reconnaissance de l'égale dignité de l'autre menace ma propre dignité. Donc pour reconnaître, il faut à la fois être capable de reconnaître l'autre et de s'assurer que nous avons quelque chose de commun. Et moi, je suis fasciné par les phénomènes de backlash, c'est le phénomène de retour de bâton. C'est-à-dire que vous avez à la fois une reconnaissance générale et des retours de bâton de majorité qui disent « nous ne sommes plus la norme, oui. Nous sommes prêts à tolérer tout ce que vous voulez, mais à condition de rester la norme, et vous nous demandez de plus être la norme ». Et ça, c'est un enjeu qui nous dévastera, parce que les populismes de droite sont sur du velours. Ça, c'est la première chose. Et puis, la seconde chose, je voudrais le rappeler, c'est qu'on demande aux individus, moi, je crois que c'est des consommateurs, mais on leur demande d'être des héros. C'est-à-dire, quand vous avez comme impératif d'être l'auteur de sa vie, vous dites aux individus, il faut à la fois assumer vos échecs, etc. Ce qui fait d'ailleurs que la dépression a largement remplacé la névrose. Parce que tout le monde est épuisé, amer, fou de rage, et que on pourrait un peu lever le pied là-dessus et dire aux gens, il y a d'autres manières d'être reconnu que cette espèce de compétition permanente.
Je retiens aussi de ce que vous avez dit au début, arrêtez de penser que le monde est un jeu à somme nulle. Ce que j'ai, c'est que vous ne l'avez pas, et si vous l'avez, c'est que je ne l'ai plus. C'est un peu ce que vous avez expliqué avec l'égalité des conditions. Valentin Husson.
On ne réfléchit plus en termes de temps long. Lyotard parlait de la fin des grands récits, autrement dit la fin des grandes idéologies, le communisme, oui. le messianisme religieux, etc., etc. Il n'y a plus d'idéologie en ce sens, et je prends idéologie à cet égard de manière positive, d'idéal. Les foules sentimentales avaient soif d'idéal, dit Souchon, elles ont soif de vengeance aujourd'hui, et on ne leur propose que de la vengeance. Le populisme capte les passions tristes, vous l'avez dit, et n'en fait pas quelque chose de positif. Il transforme, il fait croire que cette impuissance peut devenir une puissance, mais c'est faux. Les foules ressentimentales restent totalement impuissantes, et moi je suis de ceux qui pensent que les politiques devraient mieux réfléchir sur le temps long que sur le court terme, et réinjecter un petit peu d'idées et d'idéal dans la politique.
Si je remets un peu de Souchon, si je vous écoute, les foules sentimentales ont soif d'idéal, et quand elles n'ont pas d'idéal, elles deviennent ressentimentales.
Parfait.
Merci. Merci à tous. Merci François Dubé. On lira votre livre sur le mépris et Valentin Husson sur le ressentiment. Deux petits livres formidables, très stimulants à la lecture. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face. Mathilde Clatte à la préparation de l'émission. Marie Merrier à sa réalisation. Aujourd'hui, Loïc Frappsos à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour la suite et la fin de Élysée dans la tourmente, anatomie d'un exécutif en crise, une conversation avec l'historien Jean Garrigue que vous pouvez déjà écouter en podcast sur l'appli Radio France.